France Info.
Bonsoir à tous, au menu des informés jusqu'à 21h en direct à la radio et à la télévision sur le canal 27. Gabriel Attal a-t-il eu raison de s'attaquer à l'indemnisation des chômeurs? La levée de bouclier est syndicale mais aussi politique suite aux annonces d'hier, avec des questions sur le calendrier, sur les mesures elles-mêmes et sur l'envie d'écarter les partenaires sociaux, entre autres. L'exécutif qui choisit en tout cas la fermeté dans l'affaire du proviseur menacé de mort. Une plainte a été déposée contre la famille à l'origine des menaces. Est-ce suffisant pour rassurer un corps enseignant qui se sent bien seul? La laïcité reste en tout cas un sujet sensible à l'école. On en parle avec notre expert Jean-Pierre Sakoun, président de l'association Unité Laïque. Et puis, que se passe-t-il avec Raphaël Glucksmann, troisième des sondages pour les européennes? Il grogne, il grappille des voix chez LFI, mais aussi du côté des macronistes. Est-il en train de réveiller la gauche du centre et le traditionnel match avec la droite? On en parle avec nos informés qui sont ce soir Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Ebra, Charles Sapin, journaliste politique au Point et auteur d'un livre qui vient de sortir, Les moissons de la colère, plongé dans l'Europe nationaliste, c'est aux éditions du Cerf, et Bruno Cotrès, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique et prof à Sciences Po. Bonsoir et bienvenue à tous. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Gabriel Attal a à peu près réussi à fâcher tout le monde avec sa réforme sur l'assurance chômage, même dans la majorité, on en parlera sans doute. Les syndicats en tout cas sont vent debout, ils y voient une stigmatisation à nouveau des chômeurs. On va écouter François Omeril, président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres.
Il prétend que quand on tape plus sur la tête des chômeurs, ils retrouvent plus facilement un emploi. Or c'est faux, il est démontré que c'est faux, il y a des études qui le prouvent. C'est vraiment une considération populiste, c'est le gouvernement du coin du bar, c'est absolument scandaleux. Donc que veut Gabriel Attal? Il veut par exemple qu'un technicien supérieur de 52 ans au chômage, il accepte n'importe quel emploi, une plonge dans un restaurant, un gardiennage d'un parking. C'est ça qu'il veut en fait. Il veut afficher des chiffres qui sont sans lien avec ce qu'est la réalité vécue par quelqu'un confronté à la dure réalité d'être au chômage. C'est ça qu'il fait. Mais c'est scandaleux, c'est insupportable en fait.
Alors, la réponse, et puis je vais vous entendre aussi sur ces deux témoignages, la réponse de la ministre du Travail, Catherine Vautrin, qui était l'invitée de France Info ce matin et qui présente la philosophie, le pourquoi de cette réforme.
Le pays crève du chômage de masse. Notre difficulté, c'est précisément d'accompagner celles et ceux qui sont au chômage vers l'emploi. Et c'est vraiment la nécessité qui a été annoncée hier par le Premier ministre, qui est de dire, parce que on a d'ailleurs une étude de la DARES qui sera rendue en juin et qui donne les premiers éléments, plus vous restez longtemps au chômage, moins vous avez de chances de retrouver un boulot. Donc le sujet, c'est vraiment chômage, formation, retour vers l'emploi dans les délais les plus courts possibles.
Messieurs, madame, pourquoi cette réforme? Pourquoi Gabriel Attal s'est-il embarqué dans cette galère, Charles Sapin?
Pour répondre à une crise montante, en fait, si vous voulez, il y a un style Gabriel Attal qu'on commence à connaître un petit peu. On l'a vu quand il était ministre de l'Éducation, c'est-à-dire que quand vous avez un bad buzz, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire des informations un peu embêtantes pour le gouvernement, il essaye de faire de l'aïkido et de transformer ça en force. Là, qu'est-ce qui occupe l'actualité? Un déficit qui dérape, une dette abyssale, avec un président de la République qui est responsable de 1000 milliards de dettes supplémentaires, c'est-à-dire au prorata... un bilan plus dur encore que celui de François Hollande, et qui vient même finalement nier ce qui étaient les promesses originelles du président Macron en 2017, qui était en gros retrouver une dynamique économique, réformer l'État. Donc Gabriel Attal, face à ça, essaye de faire de l'aïkido et dit voilà, je fais des grandes annonces sur le travail. Mais il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Le but de cette réforme de l'assurance chômage, c'est pas remettre les gens au travail. Celui qui a 52 ans, qui s'est fait virer, c'est pas en réduisant en fait ses indemnisations qu'il va retrouver du travail. Non, c'est faire des économies.
Ni en les écourtant.
C'est faire des économies. Alors pour ça, comme l'a dit le Premier ministre, il y a plusieurs voies possibles. Vous avez la réduction.
Alors économie, là aussi, la question est compliquée parce que on répète à l'envi, et tous les économistes le disent, que l'UNEDIC est excédentaire. Donc faire des économies, quand on regarde déjà cette caisse d'assurance chômage, elle fonctionne, elle est même excédentaire, Bruno Cotrès.
Ah oui, effectivement, au fond, c'est surtout l'État central, les administrations centrales qui sont responsables de cette dette et du déficit de cette année. C'est 154 milliards d'euros de de déficit. Quand on regarde et qu'on décompose administration centrale, État central, on va dire collectivité locale, opérateur public du type CNRS par exemple, on voit que c'est l'État central principalement, c'est pas les collectivités locales, c'est pas les administrations sociales. Donc effectivement, il s'agit pour le Premier ministre à la fois de détourner effectivement le regard en le faisant porter sur les chômeurs. Et puis, vous savez, dans la communication de Gabriel Attal, il y a effectivement toujours aussi ce thème de l'autorité qui revient, qui est omniprésent. Vous savez, dans les enquêtes qu'on réalise à Sciences Po, régulièrement, on demande aux Françaises et aux Français s'ils considèrent, s'ils seraient d'accord avec l'idée que les chômeurs, s'ils le voulaient vraiment, pourraient retrouver du travail. C'est vrai qu'il y a une majorité de l'opinion qui dit ça.
Mais quand si on regarde, voulait vraiment, vous voulez dire
voilà,
ça.
Mais quand on regarde de près, on voit que c'est pas vraiment quelque chose qui mesure l'idéologie gauche-droite. C'est beaucoup plus quelque chose qui capte la demande d'autorité. C'est beaucoup plus corrélé à l'idée
c'est-à-dire
de l'autorité.
Il y a une majorité de Français qui considèrent que s'ils voulaient vraiment, s'ils traversaient la route,
qu'il faudrait un petit peu booster les gens pour les aider à traverser la rue pour trouver un boulot. Et c'est vrai que dans la communication du Premier ministre, ça fait coup double. À la fois l'idée de l'autorité, le Premier ministre qui dit on va se retrousser les manches, on va un peu booster les gens pour qu'ils retrouvent du travail. Et puis aussi, il y a sa communication sur l'efficacité, trouver des solutions rapides, puisque lui veut une mise en œuvre de ces nouvelles mesures extrêmement rapide, extrêmement rapide. Il attend des éléments dès le mois d'avril pour une mise en œuvre à l'automne. Et on voit que là, c'est un peu orthogonal avec le dialogue social.
Mais là, encore une fois, la question, c'est des solutions à quoi alors, pour le retour au plein emploi, qui est le, qui est le grand objectif du quinquennat Macron, Nathalie Moret. Mais là aussi, beaucoup d'études, beaucoup d'économistes le disent, et on le disait à l'instant, c'est pas en
je pense qu'avec Gabriel Attal, on n'est pas sur une question sociale ou économique. Gabriel Attal, hier soir, au journal télévisé, il a fait de la politique. Rappelez-vous, lors de son discours de politique générale, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fin janvier, il avait prononcé le mot « travail » une cinquantaine de fois
46,
en une grosse heure. Non, mais ça veut dire que c'est ça qu'il essaye d'imprimer. Il essaye d'imprimer le fait, en disant « moi j'assume », il parle à la première personne, et le verbe « assumer » est un verbe qu'il emploie très souvent. Il essaye, il tente d'assumer dans l'opinion publique à 70 jours des élections européennes, qu'il est pour une France qui travaille, pour une France des classes moyennes, pour lesquelles il a plusieurs fois demandé un plan Marshall. Et c'est à cette France-là qu'il s'adresse, en faisant référence à ce que vient de dire Bruno Cotterêts, c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif d'un certain nombre de Français, s'il le cherchait vraiment, les personnes qui sont sans activité pourraient en retrouver une. C'est la politique qu'il fait. Parce que c'est pas tant les nombres d'économies qui va faire, qui sont en cause. C'est plutôt une question d'affichage, y compris pour les agences de notation.
On va voir comment il a assuré d'ailleurs le service après-vente très politique aujourd'hui. Après le fil info, 20h11, Sophie Tussaud.
C'est une mesure à titre préventif après les menaces d'attentats via les ENT. La messagerie dans tous les espaces numériques de travail des collèges et des lycées est suspendue. Décision de la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. Deux jours après l'annonce du dérapage du déficit, le gouvernement a réuni aujourd'hui des parlementaires à Bercy pour trouver des économies. Une réunion qui a débouché sur peu de pistes. Ce soir, le gouverneur de la Banque de France appelle le gouvernement à s'occuper sérieusement des dépenses publiques. Deezer a tenté de comprendre comment le petit Émile a disparu. La mise en situation au hameau du Haut-Vernay, sorte de reconstitution, s'est terminée à 19h ce soir. La Cour internationale de justice ordonne à Israël d'agir pour la distribution d'aide alimentaire à Gaza. Les magistrats se sont prononcés à l'unanimité. Le Rhône et la Loire placés en vigilance orange au vent. Dès ce soir minuit, les rafales pourraient atteindre les 110 km à l'heure. Les parcs et les jardins de Lyon seront fermés demain.
France Info.
20h, 21h. France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Bruno Cotterêts du Cevipof, Charles Sapin du Point, Nathalie Moret du groupe Ebra. Je vous le disais, service après-vente, disons-le très politique, par le Premier ministre qui était en déplacement à l'usine L'Oréal de Rambouillet dans les Yvelines ce matin. Et vous allez l'entendre, il renvoie dos à dos LFI et RN dans cette histoire.
J'ai bien vu depuis hier soir, c'est pas une surprise, qu'il y a un axe Mélenchon-Le Pen contre la réforme que j'ai annoncée. Mais c'est pas une surprise. Parce que ça a toujours été ce logiciel-là. C'est pas une surprise, on ne découvre pas que M. Mélenchon et Mme Le Pen sur les questions de travail et de social, c'est un seul et même parti. Extrême droite, extrême gauche, même combat contre le travail, une forme de parti du tout allocation. Nous, c'est pas ça notre logiciel et c'est pas ça notre logique.
Il a raison, LFI et RN, même combat sur cette question.
Non, il a pas raison parce que on est c'est beaucoup trop caricatural et il répond le but de Gabriel Attal, c'est de cliver l'opinion. Donc en faisant du Rassemblement national et de la France insoumise, en mettant un signe égal et en disant ce sont les partis des allocations face à nous qui représentons la France du travail, il cherche à cliver l'opinion. C'est exactement ça qu'il cherche et effectivement la réalité, elle est jamais noire ou blanc, c'est plutôt gris foncé et gris clair, mais la nuance, c'est beaucoup plus difficile à faire passer. Donc effectivement, non, vraiment, il n'a pas raison, parce que la vérité, elle est beaucoup plus nuancée, évidemment.
Est-ce qu'il y a un fond de vérité, peut-être, Bruno Cotresse ?
Je recommanderais au Premier ministre de se pencher à nouveau sur la vague 15 du baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, qui montre que les Françaises et les Français...
Je suis sûr qu'il entend.
Voilà, qui montre que les Françaises et les Français, au fond, le rapport au travail, il est très important. C'est une valeur absolument cardinale dans la société française. Les gens sont heureux et fiers de travailler. Par contre, ils trouvent que l'ascenseur n'est pas renvoyé en termes de promotion professionnelle, en termes de reconnaissance au travail, en termes de promotion du mérite professionnel, en termes d'augmentation de salaire. Et au fond, c'est surtout ça le problème en France. C'est pas vraiment la question de travailler. Tout le monde est d'accord sur le fait que le travail est à la fois un vecteur d'intégration sociale, d'épanouissement personnel, de réalisation de soi-même, bien évidemment, mais l'opinion trouve que l'ascenseur n'est pas renvoyé, la balle n'est pas renvoyée en termes de promotion tout au long de sa vie professionnelle.
Mais en tout cas, ça lui donne raison sur le choix du sujet. Et Dieu sait que c'est clair, son sujet.
Voilà, c'est clair qu'il y a un sujet dans l'opinion, mais qui n'est pas nécessairement sous l'angle. L'angle sur lequel, pour le moment, peut-être qu'il va venir sur l'autre angle, mais sur cet angle-là, l'angle qu'il cherche à capter, c'est effectivement un électorat qui trouve qu'il y a des gens qui sont des paresseux, qui ne travaillent pas, qu'il faut donc leur rogner les ailes sur la durée d'indemnisation, le montant de l'indemnisation, ou la durée qu'il faut avoir travaillé pour être indemnisé. Et pour le moment, c'est surtout ça, effectivement, dans une logique de très fort clivage, dont l'objectif politique en vue du 9 juin est tout à fait évident.
Mmh. Alors, il y a un choix de calendrier qui pose aussi des questions. D'abord parce qu'il y avait des négociations qui sont même pas... Le texte précédent n'est même pas totalement abouti, totalement validé. Il y a des européennes, il y a des Jeux olympiques. Si tout ça est censé aboutir juste dans cette période-là, il prend un énorme risque. Ou alors, il fait le pari qu'il n'y aura pas de mobilisation, qu'il n'y aura pas de grande sociale, Charles Sapin ?
C'est aussi un timing. En effet, c'est un timing qui n'est jamais un timing où, en pleine campagne électorale, ce n'est jamais anodin en politique. Et c'est vrai que c'est une façon aussi, mais comme vous l'avez très bien dit, c'est d'implanter un sujet dans le débat public pour occuper le débat public, pour pas qu'on parle d'autre chose. Il y avait une petite musique.
Énormes manifs juste au moment des JO. Comment
les manifs n'auront pas lieu au moment des négociations.
Juste avant, on va dire.
Les manifs n'auront pas lieu au moment des négociations. Je pense que là, il lance un sujet dans l'atmosphère qui va occuper les médias, qui va occuper aussi l'échiquier politique. Ça vient opportunément juste après. J'y reviens, je suis désolé, sur cette séquence quand même incroyable sur le dérapage, notamment des finances publiques, mais aussi des prévisions du gouvernement. Normalement, quand un gouvernement se trompe sur ses prévisions économiques, on est à 0,3. Là, on a dépassé les 0,6. Et il y a une petite musique en temps électoral qui compte beaucoup. C'est que vous avez les responsables, les Républicains, par exemple, qui disaient, bon, bah, très bien, deux quinquennats du Mozart de la finance, ça s'est terminé en requiem pour les finances publiques. Ça peut parler à une forme d'électorat, et c'est justement ce même électorat, cette France du travail, cette France qui se lève tôt, comme disait Nicolas Sarkozy en 2007, qu'essaye de toucher Gabriel Attal dans une forme de contre-feu.
Sauf si les oppositions arrivent à faire entendre et à faire prospérer ce procès en insincérité qu'ils essaient d'instruire, Bruno Cotresse.
Oui, parce qu'effectivement,
l'aspect considérant que tout n'a pas été mis sur la table,
puis voilà,
que
c'est l'aspect paradoxal d'une communication, de battre le rappel de manière urgente en disant il faut remettre les gens au travail, etc., mais d'une équipe qui est au pouvoir depuis 7 ans. Et donc, il y a là quelque chose qui est toujours un tout petit peu pas paradoxal. Effectivement, les oppositions ont là une fenêtre pour tirer, qui est effectivement presque idéale pour eux, en disant, bah, effectivement, le Mozart de la finance, ça crée le niveau de dette publique cumulée le plus important, disent certains, de toute l'histoire du pays, ou en tout cas de son histoire récente. Avec des dérapages en 2023 qui fait que la France fait un peu mauvais élève de la zone euro en particulier. Et c'est un peu paradoxal à ce moment-là d'en appeler à une urgence quand on est aux responsabilités depuis plusieurs années.
Alors clairement dans la majorité non plus, ça les réjouit pas. Ma question c'est est-ce qu'il prend pas un risque quand même à un moment vis-à-vis de sa majorité qui était pas réjouie de ces annonces d'aujourd'hui, qui est inquiète sur ce déficit qui a dérapé, vous aviez raison Charles Sapin, ils craignent clairement une motion de censure qui est possible aujourd'hui.
Alors moi je pense que le risque il est pas là. Déjà ce qui est relève de l'assurance chômage, ça va pas passer par le Parlement. Première chose. Le risque, peut-être, c'est parce que, et on l'a vu lors des questions au gouvernement ce mardi à l'Assemblée nationale, moi j'y étais et j'ai vu Charles de Courson, qui est un centriste un peu conservateur du groupe Liotte, acclamer debout par la France insoumise. On peut pas les suspecter d'être politiquement alignés, tout simplement parce que Charles de Courson, qui est vraiment un spécialiste des finances, avait demandé un budget rectificatif. Tout ça est très technique, mais avoir un budget rectificatif pour le gouvernement, ça veut dire signer quelque part qu'il avait présenté un budget insincère. Donc toute la bataille du Parlement, ça va être est-ce qu'on va arriver à avoir un budget rectificatif ou pas ? Est-ce que on va avoir cette bataille parlementaire ou pas ? C'est vrai que c'est politiquement intéressant, mais je pense que ça n'arrive pas au niveau des Français. C'est-à-dire que cette bataille entre budget rectificatif, etc., c'est quelque chose.
Mais justement, il faut expliquer que.
Et c'est ça qui pourrait peut-être amener peut-être à un vote, une coalition des oppositions contre le gouvernement. Moi, à ce stade, je n'y crois pas trop, mais c'est effectivement un risque qui plane.
C'est une des craintes au sein de la majorité. C'est les différentes échos qui remontent et qui pourraient survenir soit en 4-49-3 sur ce budget rectificatif, donc qui surviendrait parce qu'au cas où il y aurait de nouvelles coupes budgétaires qui nécessiteraient de revenir devant l'Assemblée, ou soit sur d'autres textes d'ailleurs.
Oui, on peut comprendre.
Comment on peut évaluer ce risque-là aujourd'hui ? Il est réel pour vous, Bruno Cotterêts ?
Effectivement, tant qu'on ne sait pas s'il y a un rectificatif, voilà.
Oui, mais sur d'autres textes.
Voilà,
est-ce que les oppositions, à un moment, peuvent.
Pour le moment, c'est moins évident que ça ne l'a été, par exemple, sur la réforme des retraites, où Elisabeth Borne avait sauvé son gouvernement à 9 voix. Hein, donc, c'était passé pas loin. Là, pour le moment, on a d'abord une séquence qui est une séquence électorale qui arrive. Donc, c'est un peu risqué pour tout le monde, d'une certaine manière, parce que si on perd un combat sur une motion de censure, c'est pas très porteur dans la perspective des élections européennes non plus. Voilà, donc, pour le moment, je pense pas qu'on soit encore dans ce scénario, mais c'est vrai que s'il y a un budget rectificatif, là, il y a une opportunité qui se présente pour toutes les oppositions. Et c'est vrai que les Républicains, pour le moment, ont tiré à boulet rouge sur cette question des déficits.
Allez, on referme cette page pour ce soir. On parle de laïcité et de cette affaire du proviseur du lycée Ravel dans un instant. Après le fil info, 20h21, Sophie Dussault.
La Russie accuse à nouveau Kiev d'être derrière l'attentat de Moscou de vendredi dernier. Elle assure avoir la preuve que les suspects ont reçu de l'argent en provenance d'Ukraine. Washington dénonce une propagande absurde. Le ministère des Armées alerte sur un faux site internet qui appelle 200 000 Français à s'engager en Ukraine. Il reprend tous les graphiques gouvernementaux. Le site est à présent inaccessible. Il engageait les volontaires à laisser leurs coordonnées. Il était le roi des crypto-monnaies. Il va passer les 25 prochaines années derrière les barreaux. Sam Bankman-Fried est condamné par un tribunal de New York. Le fondateur de FTX est accusé d'avoir détourné 8 milliards de dollars issus des fonds de ses clients. Des renforts militaires polonais pour aider à la sécurisation des Jeux Olympiques. Ils rejoindront la coalition internationale mise en place par Paris. Wendy Renard, de retour avec les Bleus. La capitaine de l'équipe de France féminine de football a été appelée par Hervé Renard. Elle jouera les deux premiers matchs de qualification pour l'Euro 2025, début avril, contre l'Irlande et la Suède.
France Info. 20h, 21h. France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Ebra, Charles Sapin, journaliste politique au Point, Bruno Cotterêts, chercheur CNRS au CEVIPOF, et on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Sakoun. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Président de l'association Unité Laïque, vous nous dites quelques mots sur ce que fait l'association, en tout cas une action qui démarre au moment de l'affaire du voile de Creil en 89, c'est bien ça?
Alors une association qui démarre plus tard, mais évidemment le fondement de notre action dans le domaine scolaire, c'est évidemment ce moment fondateur, hélas, qu'est la question du voile de Creil. Et aujourd'hui, Unité Laïque se concentre sur divers points, parce qu'on ne peut pas tout traiter dans le domaine de la laïcité et de la République. D'abord, la question de la mémoire et de la reconstruction d'une mémoire républicaine, et c'est notre association qui a été à l'initiative et à l'origine de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian dans ce cadre-là. Et sur le plan scolaire, nous travaillons donc sur d'autres plans, mais je vais me concentrer là-dessus. Nous travaillons la main dans la main avec Michaël Paty, la sœur de Samuel, qui porte sa mémoire et qui porte le combat laïque et républicain dans l'école, pour une initiative qui s'appelle Honorer Samuel Paty, Honorer la République, qui consiste à faire nommer partout en France des lieux, des établissements du nom de Samuel Paty, en relation et avec le soutien de l'Association des maires de France.
Alors, on va parler de nous d'école. L'État a donc décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre cet élève, sa famille d'élèves de BTS, qui a contraint le proviseur du lycée Ravel à démissionner, à prendre sa retraite de façon anticipée, pour être précis. Cette affaire pose beaucoup de questions. Mais déjà, cette fermeté aux côtés du proviseur, qui a été menacé de mort, pour avoir tenté de convaincre cette jeune fille de retirer son voile, c'est un soutien qui est important, qui est nouveau, comment vous le percevez?
Oui, il est important. Oui, il est nouveau. Oui, il est insuffisant. Il est important, évidemment, on n'aurait pas imaginé que le Premier ministre ne soutient pas le proviseur du lycée. Il est insuffisant parce qu'il suffit pas de boucher les brèches, de boucher les trous dans les digues. Il faut reconstruire cette digue et il faut surtout redonner à la laïcité la compréhension fondamentale que doivent en avoir en particulier les enseignants et les élèves, c'est-à-dire quelque chose de positif qui défend nos libertés.
Et c'est pas le cas aujourd'hui.
Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ça n'est plus le cas aujourd'hui d'une part parce que la formation des enseignants dans ce domaine a été négligée depuis fort longtemps, de même que la formation des mêmes enseignants à leur fonction de fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils doivent quelque chose à l'État et ils doivent quelque chose à la République. Pas seulement l'enseignement qu'ils donnent, ils doivent la formation des citoyens. Souvenons-nous de Ferdinand Buisson, le premier devoir d'une République, c'est de fabriquer des républicains et c'est bien à l'école qui se fabrique. Et donc, cette insuffisance est marquée tous les jours et il faut absolument, au-delà des effets d'autorité absolument nécessaires, il faut absolument reconstruire l'école de la République dans sa fonction laïque en particulier.
On célèbre cette année les 20 ans de la loi laïcité 2004 qui interdisait tous les signes religieux à l'école. C'est cette loi qui est insuffisante?
Alors non, d'une certaine manière, cette loi est la bonne nouvelle de ces 35 dernières années. C'est-à-dire que depuis 35 ans et depuis Creil, on a assisté à 35 ans de petits Munich de l'école publique, année après année, et avec les mêmes résultats que le grand Munich. C'est-à-dire qu'on a à la fois la défaite et, sinon le déshonneur, au moins la perte de la compréhension de ce que nous faisons. Et donc, cette loi de 2004 a été un moment crucial parce qu'elle a permis de mettre fin à une dérive gravissime. 20 ans après, elle a évidemment absolument sa nécessité dans l'arsenal, mais il faut continuer, et continuer, c'est reprendre en main, en particulier la formation des maîtres.
Je vous pose la question parce qu'on va écouter Florence Bergeau-Blaclair, qui est anthropologue au CNRS, spécialiste du frérisme et de ses réseaux. Elle dit « on a traité le symptôme, le voile, mais pas les causes ». Et selon elle, il faut être plus ferme pour faire respecter la loi sur la laïcité.
Tout le monde sait bien qu'il ne faut pas mettre de voile dans un établissement scolaire. Quand il y a comme ça une infraction à la loi caractérisée, il faudrait que les forces de l'ordre soient appelées immédiatement. Je pense qu'il faut maintenant que les enseignants, les cadres des écoles ne prennent pas le risque d'intervenir directement. C'est très important que partout où nous le pouvons, nous résistions à cette poussée. Parce qu'évidemment, si chacun effectivement se retire, oui, nous aurons perdu d'avance.
Vous êtes d'accord, on a traité le symptôme, pas les, le voile, mais pas les
causes. C'est ce que je disais d'une autre manière. On rebouche les trous dans la digue, mais on ne la reconstruit pas et on ne la remet pas réellement à jour. Et évidemment, il faut cette autorité sans autoritarisme, une autorité démocratique et républicaine, mais il faut aussi reconstruire tout le reste. Alors, est-ce que l'autorité doit être accentuée par la présence des forces de l'ordre dès qu'il y a un problème, etc. Peut-être. Peut-être, je n'y ai pas suffisamment réfléchi pour le dire, mais pourquoi pas? Mais ça n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est reconstruire une école républicaine qui a confiance dans sa laïcité et qui sait que c'est le symbole de notre liberté. Mmh. Si je peux me permettre, il y a un film qui va sortir dans quelques semaines en France, qui s'appelle Amal, qui est sorti en Belgique. Qui est réalisé par un réalisateur belge qui s'appelle Jawad Ramil et avec une actrice que vous connaissez peut-être qui s'appelle Loudna Azabal. Et c'est un film, en fait, qui est une fiction qui reprend grosso modo l'affaire de Samuel Paty et celle de Mila, en les mêlant, pour donner la vision de ce que peut être l'emprise intégriste, islamiste dans le cas précis, sur l'école et sur la société. Il faudrait que tous les Français voient ce film, et en particulier les enseignants, pour comprendre à quel point l'irruption du religieux, et particulièrement du religieux intégriste dans l'école, est une catastrophe pour nos libertés et une catastrophe pour l'émancipation. Mmh.
Je sais pas qui veut réagir, Charles Sapin, la laïcité dans la classe politique, et vous pourrez nous répondre aussi, Jean-Pierre Sacone, est-ce qu'il vous semble que les politiques aujourd'hui ont une perception juste, réelle de ce problème de laïcité à l'école?
La majorité de la classe politique a il y a une sorte de réveil, alors certains diront un peu tardif, on parle pas de tout l'échiquier politique, mais quand même une grande majorité... de l'échiquier, ce qui est tous témoins de ce qui est en fait une faillite de l'État. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, on fête les 20 ans de la loi interdisant les ports religieux ostentatoires à l'école.
Ostensible,
excusez-moi, c'est vrai. et en fait, on se retrouve dans une situation où on se demande où l'application de cette loi est devenue presque théorique face à une réalité de plus en plus prégnante dans un grand nombre d'établissements. Comment faire appliquer cette loi, cette interdiction du voile, quand vous avez 60%, selon un sondage Kantar, des 18-30 ans qui estiment que la laïcité en fait est utilisée pour discriminer l'islam? Comment interdire le voile dans un établissement quand celui qui veut faire respecter la loi, c'est lui qui reçoit les menaces de mort? Il y a un espèce de paradigme où... on se demande entre le poids du nombre, entre la loi du nombre et l'exécution de la loi, qui va l'emporter?
Allez, on s'interrompt 3 minutes et on poursuit cet échange le temps du point sur l'info, puisqu'il est 20h30. Et bonsoir Édouard Marguet.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. La critique vient du gouverneur de la Banque de France sur le budget de l'État. Le gouvernement doit s'occuper enfin sérieusement des dépenses publiques, déclare François Villeroy de Galo. Après le dérapage du déficit à 5,5% l'an dernier, il estime que ça fait 15 ans que les gouvernements ne tiennent pas leurs engagements. Il demande au gouvernement de rectifier le tir. Suspension des messageries des ENT dans les établissements scolaires, décision de la ministre de l'Éducation. Après les nombreuses menaces terroristes contre des lycées et collèges publiées sur ces espaces numériques de travail, le temps de réinitialiser les comptes des élèves et de les sécuriser davantage, déclare Nicole Belloubet. Emmanuel Macron ne ferme pas la porte à l'éventuelle venue de Vladimir Poutine au G20. Cela devra faire l'objet d'un consensus, déclare le président de la République pendant une conférence de presse au Brésil, pays où se tiendra le prochain sommet du G20 au mois de novembre. Si un tel rendez-vous peut être utile, il faut le faire. S'il crée de la division, sans doute pas, précise le chef de l'État. La Cour internationale de justice ordonne à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence dans la bande de Gaza. Elle affirme que la famine s'installe dans le territoire palestinien. Obligation au titre de la Convention pour la prévention de la répression et du crime de génocide, écrit-elle. Les réquisitions au procès du violeur de Tinder. Le parquet demande 19 ans de réclusion criminelle. Salim Berada est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement 17 femmes qu'il avait rencontrées sur Internet, d'où son surnom. L'ex-photographe conteste les faits. Le retour de Wendy Renard en équipe de France de football. La capitaine blessée à une cuisse depuis fin décembre a été appelée par le sélectionneur Hervé Renard En vue des deux premiers matchs de qualification pour l'Euro 2025, ces matchs auront lieu début avril contre l'Irlande et la Suède.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On parle de la laïcité à l'école avec Charles Sapin du Point, Nathalie Moret du groupe Ebra, Bruno Cotresse du Célipof et Jean-Pierre Sacoun, président de l'association Unité Laïque. On a commencé à s'interroger sur les enseignants qui ont le sentiment clairement d'être abandonnés. Est-ce qu'ils ont raison? Enfin, je dirais, est-ce que c'est un sentiment, Bruno Cotresse, dans
j'ai regardé pas mal de données qui ont été réalisées au cours des 2-3 dernières années, d'enquêtes parfois de très grande ampleur, sur les enseignants. Parfois d'ailleurs conduite par le ministère de l'Éducation nationale lui-même, qui dispose de baromètres sur le moral des enseignants, ou par des sondages d'opinion qui ont été faits sur des larges populations d'enseignants. Et ce qu'on voit à travers ça, c'est que chez la grande majorité, l'immense majorité d'enseignants, le plaisir d'enseigner, l'intérêt pour leur discipline, on va dire la logique de la vocation, est quand même très importante toujours. Par contre, c'est vrai que d'abord, ils ressentent qu'ils sont souvent laissés un peu seuls par leur hiérarchie, voire par les équipes pédagogiques.
De manière générale ou sur ces questions-là?
De manière très générale, ils trouvent que...
Sur tous les sujets.
Ils trouvent qu'ils sont plus respectés par les élèves que par les parents d'élèves et parfois peu par leur hiérarchie. En revanche, on voit qu'il y a deux sujets très importants. Le premier, c'est l'expérience qu'ils font de violence, qu'elle soit légère, symbolique, verbale. Dans une enquête faite par l'IFOP en décembre 2020, on a quand même 45% des enseignants qui disent qu'ils ont été insultés ou qu'ils ont été exposés à des propos de calomnie en face à face, même pas sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, il y a un deuxième sujet qui est beaucoup déclarent qu'ils ont eu l'expérience de s'être auto-censurés au cours des récentes périodes. La moitié des enseignants interrogés par l'IFOP en novembre 2022 dit on s'est auto-censuré, c'était 36% en 2018. C'est beaucoup plus important
sur ces sujets-là.
Et c'est beaucoup plus important chez les jeunes enseignants qui, par ailleurs, effectivement, ont le sentiment qu'il faudrait assouplir la laïcité. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans cette enquête de l'IFOP. Donc on voit que les enseignants continuent d'avoir beaucoup de passion, d'intérêt bien sûr pour leur métier, mais se sentent assez démunis souvent et sont exposés à des violences ou sont exposés à des phénomènes de contestation même dans leurs enseignements, en histoire géo, en instruction civique, dès que le sujet porte sur la laïcité notamment.
Jean-Pierre Sacoun, est-ce que sur les jeunes enseignants, ça c'est intéressant aussi, est-ce qu'il y a un changement face à toutes ces difficultés? Est-ce que certains réclament, par exemple, un allègement des règles?
Ils sont à peu près 25%.
Sur la laïcité?
Ils sont à peu près 25%.
C'est-à-dire de réautoriser le voile?
Oui.
Et tous les signes religieux?
Des allègements sur la laïcité. Après, sur le détail, ils n'en donnent pas beaucoup. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut pas... Il faut prendre des photos, mais il faut regarder le film aussi. Et le film, c'est que la loi de 2004 a joué son rôle sans aucun problème jusqu'à peu près en 2019. Depuis 2019, on le sait, il y a une offensive. Une offensive frériste des frères musulmans sur l'école de la République. Elle est très claire, elle est même désormais publiquement reconnue par les services français. Tout le monde le sait. Et donc, face à cette
offensive... Elle a été déclenchée par...
Les frères musulmans. Qui
mais
sont
par...
Par la baïa. La baïa, par exemple. C'est l'exemple le plus typique. Et la réaction de Gabriel Attal a été parfaite. C'est-à-dire que, de la même façon qu'en 2004, la question du voile a été réglée quasiment du jour au lendemain, de la même façon, la question de la baïa a été réglée quasiment du jour au lendemain. La différence, plus exactement, nous voyons que, comme après 2004, il y a une force, il y a une volonté de continuer à travailler sans cesse l'école de la République. Ce matin, Michael Paty disait chez un de vos confrères, il y a une fatwa contre l'école de la République. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est de cet ordre-là. Pourquoi? Parce que...
Vous le diriez de manière aussi générale?
Oui, absolument. Absolument.
C'est fort.
Pour une raison très simple. La France est la mère des batailles pour les islamistes. C'est un pays laïque, c'est un pays qui fait la différence entre le religieux et le politique. C'est donc le pays qui, en Europe, est le plus compliqué pour eux. Mmh. Et au cœur de cette France-là, il y a un moteur qui est l'école laïque. S'ils arrivent à la vaincre, s'ils arrivent à retourner ça... Ils ont gagné. Et donc, ils se concentrent là-dessus. Et lorsqu'en 89, l'affaire de Creil est arrivée, elle n'est évidemment pas arrivée par hasard, eh bien, Ils s'attendaient à une bataille longue, ils s'attendaient éventuellement à la perdre. Et ils ont eu cette divine surprise, si j'ose dire, de voir du jour au lendemain le gouvernement reculer et leur donner la victoire. Et il a fallu attendre 15 ans, qui ont été les 15 pires années des enseignants en matière laïque, entre 89 et 2004, où c'était un bazar total, où les décisions étaient prises au niveau local, comme d'ailleurs certains ont voulu le faire pour la Baïa, avant M. Attal, pour se rendre compte que la fermeté payait et qu'elle permettait de remettre au cœur la question de l'émancipation. C'est ça qui est au cœur.
Il y a des pays en Europe qui laissent une forme de liberté et où ça se passe différemment.
Ça se passe pas très bien en général, de moins en moins bien. On le voit particulièrement en Angleterre qui est allée plus loin dans ce domaine et on voit la catastrophe sociétale que représente le fait de laisser s'inscrire les communautés d'une manière aussi radicale dans la société.
Il n'y a pas en contrepartie une forme de
oh ben non, on voit bien,
de
on
vivre
voit bien
ensemble
en
qui
non, non, on
jusqu'à
voit très
la démission
bien.
Du ministre de l'Intérieur.
C'est même bien pire. Il n'y a plus de vivre ensemble. Par ailleurs, le mot vivre ensemble est, enfin, l'expression vivre ensemble est une expression terrible. Vivre ensemble signifie en réalité exactement l'inverse de ce qu'elle semble vouloir dire. Vivre ensemble, ce sont des communautés côte à côte dont, à minima, on espère qu'elles ne vont pas s'entretuer. Nous, en France, on a un autre modèle qui s'appelle le contrat social, qui s'appelle la fraternité universelle, qui s'appelle le fait d'envoyer un message qui est de dire que nous sommes beaucoup plus semblables que nous ne sommes différents. Et que ce que nous devons mettre d'abord en avant dans la société, c'est ce qui nous rassemble, pas ce qui nous fait différents. C'est ça qui est au cœur de la laïcité.
Un mot pour conclure, Bruno Cotterès.
Oui, j'ai été sur le site du ministère de l'Éducation nationale voir la très belle charte de la laïcité à l'école qui est proposée. Je recommande à tout le monde d'aller la voir. Il y a un document en couleur qui rappelle les grandes valeurs.
Bien
effectivement,
sûr.
On retrouve très bien vos propos dans ces grandes valeurs. Le ministère a fait une grosse action. J'ai relu la note de cadrage qu'a envoyée Gabriel Attal lorsqu'il était en fonction à l'Éducation nationale pour la rentrée de 2023 et qui appuie beaucoup quand même sur le soutien de l'État à ses enseignants, qui rappelle que quand il y a un problème, il faut peut-être engager un dialogue aussi avec l'élève, mais que ce dialogue ne peut pas être non plus une négociation sur les principes de la laïcité.
Oui, et en même temps, il y a le problème du rectorat qui fait un communiqué dont l'euphémisme glace le sang.
Terrible.
Faut expliquer.
C'est-à-dire que en réaction à la démission du proviseur qui a été menacé de mort suite à avoir demandé à une élève de retirer son voile, le rectorat a fait une réaction, un communiqué, en disant que le proviseur démissionnait pour convenance personnelle, ce qui rappelle un peu cette idéologie pas de vague qui a une part de responsabilité importante dans la situation dans laquelle nous sommes.
Merci beaucoup Jean-Pierre Sakoun.
Merci à vous.
On y reviendra sans doute et on va suivre évidemment
j'espère bien.
Cette affaire dans les informés et ailleurs. D'ailleurs, président de l'association Unité Laïque. On parle de Raphaël Glucksmann après le fil info de 20h41. Sophie Tussaud.
Des réquisitions qui vont au-delà du maximum prévu par la loi. 19 ans de prison sont réclamés à l'encontre de celui qui a été surnommé le violeur de Tinder. L'homme de 38 ans est accusé de 17 viols et agressions sexuelles. La cour criminelle de Paris rendra son verdict demain soir. Le ministère de l'Éducation nationale suspend la messagerie de tous les ENT. Décision à titre préventif à la suite des menaces d'attentats ces derniers jours contre de nombreux collèges et lycées. 1357 personnes interpellées au total dans les opérations anti-drogue PlaceNet XXL menées ces derniers jours en France. Bilan annoncé par Gérald Darmanin lors d'un déplacement à Dijon. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation en Haïti. Cataclysmique selon les Nations Unies qui déplore la facilité avec laquelle les armes entrent et circulent dans le pays. Depuis le début de l'année, plus de 1500 personnes ont été tuées. Ça a soufflé fort sur la façade atlantique aujourd'hui, jusqu'à 183 km à l'heure sur la pointe du Raz dans le Finistère. Et demain, c'est dans le Rhône et la Loire que les vents seront violents. Les deux départements sont placés en vigilance orange dès ce soir minuit.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Avec Nathalie Moret du groupe Ebra, Charles Sapin du Point, Bruno Cotterès du Cevipof, Raphaël Glucksmann est-il en train de réveiller la gauche? C'est en tout cas, on va le dire, le phénomène politique de ce côté-là de l'échiquier à 10 semaines du scrutin européen. La liste Glucksmann et du PS est donnée à 11% dans le dernier sondage Ipsos pour le Figaro. Loin derrière, Jordan Bardella évidemment qui est toujours loin devant à 30% pour le RN et Valérie Ayer, je dis toujours Ayer. pour la liste Renaissance, qui est au-dessus de 20% dans à peu près tous les sondages désormais. Note très intéressante de la Fondation Jean Jaurès, que vous avez tous lu, je sais, mais on va en parler au-delà de ça, parce que je sais que c'est un sujet que vous connaissez bien. Sur 100 électeurs déclarant vouloir voter Glucksmann aux européennes, sur 100 donc, 38 avaient voté Mélenchon à la présidentielle, 30 avaient voté Macron. Clairement, c'est dans ces deux électorats qu'il est en train c'est ces électorats qui sont en train de grossir les rangs, Nathalie Moret.
Oui, alors...
Que se passe-t-il avec Raphaël Glucksmann?
Il se passe que là, actuellement, le scrutin du 9 juin sera la première pierre, si vous voulez, de la recomposition politique à gauche, et c'est ça qu'on est en train de voir. Faut pas oublier que le dernier scrutin, c'était celui de la présidentielle, où Jean-Luc Mélenchon était très très haut et où le PS était très très bas. En 2019, lors des dernières élections européennes, Parti socialiste avec Raphaël Glucksmann était aux alentours de 6%. Si aujourd'hui il dépasse...
Et les écologistes beaucoup plus haut.
C'est ça. Si aujourd'hui la Raphaël Glucksmann dépasse les 10, 11, 12%, ça veut dire qu'il double son score par rapport à 2019 et qu'il arrive en position de force à 2 ans des municipales, ce qui est la vraie élection.
On va pas brûler les étapes, et c'est effectivement ça l'enjeu, la suite. Mais sur ce qui se passe en ce moment, Bruno Cotterêts, la Fondation Jean Jaurès dit qu'il est en fait en train de reconstituer donc un espace social-démocrate qui avait un peu volé en éclat avec la majorité présidentielle qui était entre LFI et RN, avec un espace politique, une espèce de tripartition de l'espace politique. Comment on explique ça?
Bon, d'abord,
il faut rappeler qui avait disparu.
Qu'on est à pas loin de 70 jours des élections européennes, donc il peut y avoir des dynamiques aussi de cours. De dernière minute, voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, si l'élection avait lieu aujourd'hui, demain,
ce sera la question suivante.
C'est vrai qu'on voit très clairement qu'il y a quelque chose qui a été capté par Raphaël Glucksmann dans la famille politique de la gauche.
Déçu des LFI, déçu de la Macronie.
Ça. Voilà, c'est-à-dire à la fois un électorat de centre gauche qui a un engagement pro-européen très clair, ce qui est le cas de Raphaël Glucksmann, un engagement qui est un engagement pour une Europe de sociale, écologique, ce qui est très clairement son positionnement, dans le contexte d'une gauche qui, depuis en particulier le 7 octobre, a des lignes de fracture et de clivage très importantes. Et on voit dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès que les électeurs qui viennent de Jean-Luc Mélenchon et qui vont se porter sur Raphaël Glucksmann, c'est plutôt les questions effectivement internationales, européennes et internationales qui les motivent. Les électeurs qui viennent d'Emmanuel Macron, c'est plutôt les sujets nationaux, économiques, la réforme des retraites, le sujet sur l'indemnisation du chômage. Et par ailleurs, on a un Raphaël Glucksmann qui, effectivement, dans ce contexte-là, sur les questions européennes, est quelqu'un qui est bien repéré dans ce segment d'électorat pour son engagement. Voilà, clairement, sur les questions européennes. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer.
La Fondation Jean Jaurès pointe aussi deux autres gros types de sujets qui sont écologie. Ils disent que les affrontements autour des méga-bassines de Sainte-Soline ont été un élément assez important. Et droit des femmes, le soutien du président de la République à Gérard Depardieu, après la diffusion du complément d'enquête de France 2, ça s'est pas passé.
Oui,
Charles Sapin.
Moi, ce qui me marque et que je trouve très intéressant, alors en effet, il y a une dynamique, c'est un peu tôt pour parler de Glucksmannmania,
dire Glucksmania.
Oui, Glucksmania, exactement. Mais il y a deux types de dynamiques en politique. Vous avez une offre qui séduit et qui avance en gagnant des électeurs, et puis vous avez ce qu'on appelle des candidatures réceptacles. C'est un peu le cas de Glucksmann, et c'est finalement cette faiblesse de cette dynamique, puisqu'on voit que
Pas une adhésion, c'est ça que vous voulez
exactement.
Dire
les électeurs qui récupèrent, en fait, c'est des électeurs qui se détournent de leur ancien vote. D'un côté, vous voyez, et c'est très bien expliqué dans cette note de la Fondation Jean Jaurès, l'électorat mélenchoniste. Celui qui va vers Glucksmann, c'est un électorat plutôt âgé, plutôt aisé, et qui tourne le dos à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'il considère que le Hamas est une entreprise terroriste et qui n'a pas supporté les ambiguïtés du leader insoumis, et parce que il veut soutenir l'Ukraine face à la Russie sans aucun embâge. Quand vous regardez du côté de la Macronie, mais c'est très simple, Glucksmann devient un vote réceptacle de cet électorat macroniste venu de la gauche qui a tourné le dos au président de la République suite à la réforme des retraites, puis à la réforme de l'immigration.
Sur l'étranger, c'est très intéressant quand vous dites l'Ukraine, c'est précisément un des aspects marquants du meeting qu'il a donné à Toulouse il y a quelques jours, je crois que c'était le week-end dernier. On va l'écouter, Raphaël Glucksmann, sur scène.
Dans la tradition de la gauche, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose qu'on appelle l'antifascisme et la résistance. Et aujourd'hui, la résistance, c'est celle du peuple ukrainien. C'est celle du peuple ukrainien contre le fascisme de Poutine. Et soutenir cette résistance, c'est être pour la paix, pour la sécurité et pour la stabilité de l'ensemble du continent européen et des citoyennes et des citoyens français.
Voilà, la clarté dont vous parliez, elle est claire, Bruno Cotterêts.
Oui, la question de la Russie, de l'Ukraine a clairement fait clivage au sein de la gauche. Du côté des insoumis, du côté des communistes, on est sur l'idée qu'il faut que l'Ukraine soit en position de neutralité, qu'elle ne doit pas adhérer à l'OTAN, qu'elle ne doit pas rejoindre l'Union européenne, parce que d'après ces formations politiques, ça serait rajouter de l'huile sur le feu et créer une situation structurellement encore plus inflammable. Voilà. Du côté des socialistes et de Raphaël Glucksmann, on n'est pas du tout sur cette position. Donc on voit qu'on retrouve un certain nombre de dissensus à gauche sur des questions à la fois européennes et internationales qui sont là. La gauche sur les questions européennes a fait l'objet régulièrement, on va dire, d'approches assez différentes. La gauche socialiste a toujours été, depuis ces 20 dernières ou 30 dernières années, très favorable au processus d'intégration européenne, même en étant critique. D'autres formations politiques de gauche, également critiques sur les modalités de l'intégration européenne, l'ont été différemment. Voilà. Donc on retrouve des éléments qu'on connaît au fond avant même la situation de l'Ukraine.
Ce qui interroge aussi, c'est que lui, Raphaël Glucksmann, semble réussir là où les leaders au niveau national, les élus nationaux du PS, ne marquent pas les esprits. Qu'est-ce qu'il y a en plus chez Raphaël Glucksmann qui fait que ça fonctionne
Alors déjà, là, il arrive à faire quelque chose d'assez notoire, c'est qu'il est en train de réconcilier les deux familles du Parti Socialiste qui étaient divisées lors du dernier congrès. Dans quelques jours, il y aura un meeting à Rouen où il y aura côte à côte Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et Nicolas Mayer-Rossignol, qui était son dauphin. Donc déjà, il y a une dynamique au niveau du Parti Socialiste où là, pour une fois, ils sont tous derrière Raphaël Glucksmann.
Et personne ne se bouche le nez.
Ensuite,
ils sont réellement, voilà, évidemment, c'est toujours porteur d'avoir un leader qui monte, mais il y a réellement une cohésion de fond.
En tous les cas, sur le terrain, au niveau des militants, c'est le cas. Là où Raphaël Glucksmann a une carte à jouer, c'est qu'il a une notoriété beaucoup plus importante que Marie Toussaint, qui est la chef de file des écologistes, ou que Léon Desfontaines, qui est la tête de liste des communistes. Ouais. Et ça compte. Il est eurodéputé et il a été reconnu pour avoir été leader sur un certain nombre de sujets, notamment par exemple sur tout ce qui est ingérence étrangère, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Donc il a été à la tête de cette commission-là, et c'est vrai qu'il a une petite aura pour ça. Et il est aussi très présent sur les réseaux sociaux, qui sont notamment sur TikTok, donc à destination des électeurs les plus jeunes, segment où la France insoumise est aussi très présente.
Ouais, c'est la méthode Mélenchon, ça.
Voilà, donc du coup, c'est surtout ça, quand vous ajoutez tous ces éléments côte à côte, vous voyez qu'il y a une micro-dynamique sur Raphaël Glucksmann qui demandera à être confirmée, parce que tout ça est effectivement très ténu, mais qui fait qu'aujourd'hui, il est sur un score où si on additionne tous les sondages qui est au-dessus de 10, c'est ce qui n'est pas le cas des autres listes de gauche.
On va effectivement voir, après le fil info, ce qui peut éventuellement le faire redescendre. Il a bien des handicaps quand même, Raphaël Glucksmann. 20h51, Sophie Dussault.
C'est une page sombre de l'histoire de France et l'Assemblée nationale adopte une proposition de résolution qui condamne le massacre du 17 octobre 1961, la répression sanglante des Algériens commise sous l'autorité du préfet de police Maurice Papon. Selon les historiens, elle avait abouti à la mort de plus de 200 manifestants. Éric Zemmour, reconnu coupable en appel d'injures publiques à caractère raciste, il avait qualifié en 2018 le prénom de l'ancienne chroniqueuse de Canal+, Absat Houssi, d'insulte à la France. Il devra payer une amende de 4000 euros. Le gouverneur de la Banque de France juge impératif de stopper la hausse des dépenses alors que le déficit s'est creusé à 5,5% du PIB. François Villeroy de Gallo appelle le gouvernement non pas à l'austérité mais à une stabilisation globale. 1357 personnes interpellées au total dans les opérations anti-drogue Placenet XXL menées ces derniers jours en France. Bilan annoncé par Gérald Darmanin en déplacement à Dijon aujourd'hui. Et puis le tennis, Alexander Zverev qualifié pour le dernier carré du tournoi de Miami. L'Allemand numéro 5 mondial a battu le Hongrois Marosan 6-3-6-5.
France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Luxmania ou pas, on se pose la question. Nathalie Moret est là pour le groupe Ebra, Charles Sapin pour le Point, Bruno Cotresse pour le Cevipof. On parlait de ses atouts, il est à 11% donc dans les sondages en ce moment. Qu'est-ce qui peut le faire redescendre, Nathalie Moret?
Moi je pense que déjà, aujourd'hui à 74 jours du 9 juin, donc du scrutin européen, je pense qu'il n'y a pas de Luxmania et que les gens ne sont pas du tout dans cette élection. Donc ce qui peut le faire redescendre, entre guillemets, c'est justement au fur et à mesure que la campagne électorale va avancer, il va y avoir des débats de plus en plus réguliers. C'est vrai que le premier débat qui a eu lieu le 14 mars, qui était sur Public Sénat, dans laquelle on avait aussi un pan d'organisation, nous, groupe Ebra, il a été plutôt assez bon dans le Raphaël Glucksmann dans le fait d'imposer ses thèmes dans le débat, notamment
cet échange avec Jean-Nadel Barnier.
Voilà.
Non, justement avec Thierry Mariani.
Après,
est-ce que
ça sera le cas dans les autres débats quand on va arriver sur des thèmes peut-être plus politiques? On verra. Ça c'est effectivement de nature peut-être à le servir ou à le desservir.
Vous qui animiez ce débat précisément, oui. Vous avez senti. Vous l'avez senti en position de force, qu'est-ce que vous avez senti?
Alors, position de force, non, faut pas exagérer, mais je l'ai senti extrêmement déterminé à imposer sa ligne, et notamment donc dans cet échange là avec monsieur Mariani. C'était pas le seul, hein, je veux dire, quelqu'un comme Léon Desfontaines, par exemple, pour reparler de ce débat là a joué parfaitement sa carte, puisqu'il était le total inconnu de ce scrutin. Il a effectivement un déficit de notoriété, et je l'ai trouvé sur ce débat là excellent. C'était un débat très loin du scrutin, mais à partir du moment où on va avoir les débats qui vont arriver à 15, 10, 5 jours de l'échéance, ça peut changer la donne.
Même question, Charles Sapin?
Moi, je vois quand même un gros risque pour que Raphaël Glucksmann, et qu'on a déjà vu lors des dernières élections européennes en 2019, c'est le vote utile. C'est-à-dire que vous avez une liste macroniste qui a bien repéré le risque d'un vote réceptacle Glucksmann. C'est pour ça d'ailleurs que Valérie Ayer, qui vient pourtant de l'UDI, donc du centre droit, a eu ses propos. Mais Raphaël Glucksmann aurait toute sa place sur notre liste. De toute façon, au Parlement européen, on vote à 70% comme les socialistes, qui a eu des propos très libéraux sur l'immigration, donc pour essayer de contenir ce départ vers Raphaël Glucksmann. Et si vous avez une campagne qui, comme en 2019, se termine en face à face, c'est-à-dire une liste macroniste qui dit nous sommes les plus hauts, nous sommes les seuls à empêcher que la lèpre populiste, que cette liste nationaliste conduite par Jordan Bardella arrive en tête, votez pour nous, centre-gauche, sinon vous serez co-responsable d'une victoire de l'extrême droite. C'est un mécanisme qui a marché en 2019. Possiblement, ça peut marcher aussi cette fois-ci.
Il peut y avoir un réveil, Bruno Cotresse, des autres, et de LFI et des écologistes. Je lisais dans un papier passionnant, que je vous recommande d'ailleurs, dans l'Express d'Olivier Perroux, à quel point Glucksmann est devenu l'obsession de Jean-Luc Mélenchon, ce qui donne d'ailleurs peut-être ce discours qui ressemble presque à un discours de candidature à la présidentielle à Villepinte il y a quelques jours.
Oui, on l'a dit, hein, il y a des dynamiques de court terme qui existent dans toute campagne électorale, notamment dans les élections européennes, dont les enjeux sont souvent difficiles pour les électeurs à bien les capter. Donc il va y avoir effectivement sans doute une dernière ligne droite sous l'effet des derniers débats qui peut provoquer des changements. C'est vrai que la marche là semble... Ça commence quand même à cranter un petit peu quelque chose, un écart de plusieurs points dans l'électorat. Si on lit correctement d'ailleurs les enquêtes d'intention de vote, il faut toujours être prudent avec ce qu'on appelle, vous savez, au plan technique, la marge d'erreur. Et on voit que si on applique cette marge d'erreur, il y a des enquêtes d'opinion qui pourraient indiquer que l'écart n'est pas si loin que ça entre la liste Renaissance et la liste de Raphaël Glucksmann, ou plus important. Voilà, donc il faut avoir toujours la prudence de regarder ces chiffres en ayant en tête que ce ne sont que des estimations à quelques 73 jours des élections européennes.
Valérie Ayer peut se révéler aussi, peut-être, selon vous?
Pourquoi pas?
Il reste prudent. Allez, on jette un œil sur la une des quotidiens de l'Est de la France, de votre groupe Ebra, chère Nathalie.
Alors, plusieurs choses, mais notamment, effectivement, on va revenir sur le trouble jeté par le Premier ministre après ses déclarations d'hier sur l'assurance chômage.
Charles Sapin, votre livre, Les moissons de la colère plongées dans l'Europe nationaliste, racontez-nous, tiens.
Pendant plus d'un an, j'ai sillonné les pays de l'Union européenne pour comprendre la nature et les ressorts de cette vague nationaliste qui déferle sur le continent depuis un an et demi. Comprendre les différentes forces nationalistes, leurs différences, leurs rivalités, et si oui ou non, ils pouvaient changer quelque chose au prochain Parlement européen.
Et c'est aux éditions du Cerf. Raphaël Glucksmann, je vous le redis, sera l'invité de Demain l'Europe, demain matin, de 8h30 à 9h30, édition spéciale. Donc pas d'informé demain matin, mais nous, on sera là avec Victor Maté demain soir. Bonne soirée.